Europe 1.
16h-18h,
historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Et oui Mathieu, d'autant que l'aristocrate n'a pas été enterré une fois comme le commun des mortels, ni même deux, mais bien trois fois. Nous sommes le 26 avril 1774, les cloches sonnent à tout rompre en la cathédrale Notre-Dame de la Cède à Toulon. Elles annoncent le mariage en grande pompe de deux figures de l'aristocratie locale, Laurent Bernardi de Pézenas, 32 ans, et la fille d'un procureur du roi, Rose Louise Marguerite de Valavieille, 20 ans. Le comte de Pézenas est un militaire dont la réputation n'est plus à faire. Il est le fils d'un officier de marine embarqué à 17 ans. Il s'est battu contre les Anglais pendant la guerre de 7 ans qui divise alors les puissances européennes. Sa bravoure et ses hauts faits d'armes l'ont fait capitaine des vaisseaux du roi. Aucun tableau, aucune représentation de la comtesse de Pézenas n'est parvenue jusqu'à nous. Pour tenter de nous la figurer, on peut penser aux œuvres d'Élisabeth Vigée-Lebrun qui a exactement son âge. Les modèles de la célèbre peintre de Marie-Antoinette et la jeune aristocrate toulonnaise ont sans doute le même teint frais, les mêmes joues délicatement rehaussées de rose. Tout le monde s'accorde en effet à dire que la mariée est aussi ravissante que son prénom. Le mariage est heureux, c'est, d'après les témoins, une vraie union d'amour. Rose tombe rapidement enceinte. Tout va pour le mieux jusqu'à ce soir d'été de la même année 1774. Les jeunes époux dînent en tête à tête dans leur maison cossue de la rue Salvator, aujourd'hui la rue des Bonnetières, dans le quartier du Port. Le délicieux repas se termine sur un fruit local et de saison, des abricots. Mais en avalant l'un d'eux, Rose avale par mégarde le noyau. Elle s'étrangle, suffoque, ne peut plus respirer. Le comte s'affole et s'agite autour d'elle, il la secoue sans bien savoir quoi faire. La manœuvre de Heimlich, vous savez ce geste précis qui sert à désobstruer les voies respiratoires, ne sera inventée que deux siècles plus tard par le médecin du même nom. Rose s'effondre au sol, morte. On imagine le désespoir de son époux. Sa vie qui s'annonçait sous de si bons auspices, ruinée, si bêtement ruinée. Effondré, il n'est pas en état d'organiser les funérailles. Elles se déroulent quelques jours plus tard dans la même église où le couple s'était marié 4 mois plus tôt. La nef est pleine à craquer. Toute la ville est venue dire un dernier adieu à la jeune femme dont la si triste histoire a bouleversé la région. Le comte, fou de douleur, s'est évanoui lors de la procession qui mène la dépouille vers sa dernière demeure au cimetière Saint-Lazare. L'histoire aurait dû s'arrêter là. Et nous n'en aurions probablement jamais plus entendu parler. Mais voilà. Rose de Valavieille a été enterrée dans la plus somptueuse des tenues, parée de ses plus beaux bijoux, et notamment d'un fabuleux collier de diamants. Une information qui n'a pas échappé à l'employé des services funéraires. Le soir même, une fois la foule dispersée, le fossoyeur se glisse à l'intérieur du caveau. Il fait sauter le couvercle du cercueil. Le cadavre est bien là, son précieux collier autour du cou. Tremblant, le voleur tente de le détacher à plusieurs reprises, mais le fermoir ne cède pas. Pas question de laisser échapper un tel trésor pour si peu. Alors l'homme insiste et finit par soulever le buste de la comtesse. Étrange, elle est bien souple pour une Maccabée, se dit-il. Il la rudoie un peu pour tenter d'ouvrir enfin son collier, quand soudain la mort tressaute, elle a un haut-le-cœur et sa bouche expulse quelque chose. Le noyau d'abricot incriminé. Saint-Lazare, le premier ressuscité, a fait un miracle dans le cimetière qui porte son nom. La comtesse respire. Elle est vivante et bien vivante. On ne sait pas si le croque-mort, pris de panique, s'enfuit cette nuit-là, ou bien s'il aide la jeune femme à regagner son domicile en prétextant l'avoir entendu depuis sa tombe. Ce qui est certain, c'est que le retour de la comtesse imprègne la plus grande stupeur dans la maison, bientôt mêlée d'une joie intense, surtout pour le comte, son mari. Deuxième miracle. Rose n'a pas, malgré les péripéties, perdu son bébé. 8 mois plus tard, le 12 février 1775, elle accouche d'un petit garçon, François-Xavier Joseph. Il est bien sûr baptisé dans la même cathédrale où se joue toute l'histoire familiale. Et toute la ville est à nouveau au rendez-vous pour saluer le miraculé ainsi présenté. Voici Monsieur de Pézenas qui fut enterré avant que de naître. Rose met au monde dans les années qui suivent 8 autres enfants. Mais sa vie n'est décidément pas un long fleuve tranquille. En 1789 éclate la Révolution. Toute la famille se réfugie dans une propriété du Vaucluse, située dans le village natal du comte. Mais ils sont retrouvés Arrêté, Laurent est fusillé en 1793 en pleine terreur. Déclaré ennemi de la Révolution, Rose est incarcéré peu de temps après avec 4 de ses enfants dans la prison Sainte-Ursule à Toulon. Mais la comtesse de 40 ans était à nouveau enceinte. Elle est libérée et peut accoucher de son 10e enfant. Les dernières décennies de sa vie sont peu documentées. À peine sait-on qu'elle fait œuvre de charité auprès des nécessiteux. Rose s'éteint finalement de vieillesse à 75 ans à la Seyne-sur-Mer dans le Var. Elle y est inhumée, pour de bon cette fois, en cette année 1829, dans l'ancien cimetière de la ville. Mais alors, pourquoi 3 enterrements, comme je vous l'ai indiqué au début de ce récit ? Le rebondissement, cette fois, n'est pas à la hauteur du premier. Simplement, une dizaine d'années plus tard, la commune construit un nouveau lieu de repos pour ses morts, et les restes de Rose y sont transférés. Elle est donc inhumée pour la 3e fois. La tombe s'y trouve encore, et on peut y lire l'inscription suivante. Ici repose Rose Louise Marguerite de Valavieille, modèle des épouses et des mères. Elle fut toujours l'appui des malheureux. Nulle mention, en revanche, de son incroyable destinée et de ses précédents passages sous terre.
Europe 1, historiquement vôtre.